nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour. Très tôt, l'homme a cherché à comprendre la matière afin de mieux la maîtriser. C'était les prémices de la chimie. Chez les Grecs, Empédocle, au 5e siècle avant Jésus-Christ, comprenait la matière en termes d'éléments. La terre, l'eau, le feu, l'air, avec les propriétés chaud, froid, sec et humide. À la Renaissance, la connaissance passait par la décomposition des éléments, ce qui est le cas encore aujourd'hui. La chimie est une science centrale. On la retrouve partout, dans la biologie, la médecine, la pharmacie, mais aussi l'informatique et la science des matériaux, pour ne citer que quelques disciplines. Et aujourd'hui, grâce à la chimie supramoléculaire, on tente notamment de découvrir les origines de la vie. Pour nous parler de ces formidables avancées, de nos connaissances en chimie, Jean-Marie Laine est avec nous au studio de Canal Académie. Monsieur, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous. Vous êtes, faut-il le préciser encore une fois, chimiste, spécialiste de la chimie supramoléculaire, prix Nobel en 1987 avec Donald Cram et Charles Pedersen, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Vous avez créé l'Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaire, l'ISIS, à Strasbourg, dans lequel vous êtes entouré notamment d'une quinzaine de post-doctorants. Alors le thème que nous abordons dans cette émission, de la matière à la vie, chimie, point d'interrogation, chimie, point d'exclamation, c'est aussi le thème de votre conférence que vous donnez à Shanghai le 30 octobre 2010 dans le cadre de l'exposition universelle. Alors Jean-Marie Laine, une première question qui porte sur la recherche en France concernant la chimie par rapport à d'autres pays comme les États-Unis ou la Chine. Comment nous situons-nous par rapport à ce pays émergent qu'est la Chine et les États-Unis ?
Je crois qu'actuellement, la France se situe bien, étant donné sa taille, son nombre d'universités, de chercheurs, par rapport aux États-Unis. La Chine, évidemment, monte en puissance très fortement. On voit ça principalement par le nombre de publications, le nombre de publications envoyées à des journaux et par l'impact progressif que la recherche en Chine a dans le domaine scientifique. Nous n'avons pas à rougir, nous occupons notre place dans le monde de la chimie, à la fois si on nous compare à un pays bien établi comme les États-Unis et un pays en développement, émergent comme la Chine. Mais il va falloir faire très attention, parce que la Chine et l'Inde d'ailleurs aussi sont très avides d'établir aussi leur propre renommée, leurs chercheurs, faire connaître ce qui se passe chez eux, établir des instituts de haut vol et les financements pour les centres d'excellence sont de plus en plus importants.
En France, Gérard Ferret, votre confrère à l'Académie des sciences, parlait d'une image négative de la chimie. Est-ce qu'en Chine ou aux États-Unis, on a ce même problème d'image négative comme chimie associée à la pollution, par exemple ?
Il y a des gens chez qui, évidemment, la chimie a une image négative. Mais en Chine, peut-être moins. En Chine, j'ai un peu l'impression que ce qui marche est bon. Les États-Unis, un peu la même chose, mais d'un autre point de vue. Si les résultats conduisent à des percées intéressantes, soit du point de vue fondamental, soit du point de vue application, c'est bon aussi. Il y a évidemment une sorte de tendance à associer la chimie avec des impressions négatives. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de redresser, essayer de convaincre les gens que la chimie, ce n'est pas qu'une mauvaise odeur n'est pas de la chimie, ce sont des molécules. Et les molécules ont une, par exemple, une mauvaise odeur parce que nos récepteurs sont faits de cette façon et parce que notre évolution, lorsque les organismes vivants ont évolué et que l'homme est apparu, était lié à un certain nombre de récepteurs qui font que telle chose sent bon, telle chose sent mauvais. Mais de toute façon, vous savez bien aussi que ceci change avec la culture et que culturellement, quelque chose qui est acceptable pour nous n'est pas acceptable pour d'autres cultures et inversement.
Jean-Marie Laine, alors si vous le voulez bien, effectivement, vous venez d'en parler à l'instant, revenons à la chimie, hein, qui est l'objet de notre sujet. Revenons à la chimie moderne. Le point de départ de cette chimie moderne a été Lavoisier, un autre académicien des sciences, qui a écrit la célèbre formule « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Alors aujourd'hui, Jean-Marie Laine, peut-on tout transformé grâce à la chimie.
Tout, non. Mais la chimie a acquis une puissance réelle et très forte sur la matière, sur la possibilité de recomposer les éléments. Alors, il faut peut-être préciser que l'autre conquête majeure de la chimie est de connaître les éléments, c'est-à-dire toutes les briques dont est constitué notre univers et dont sont constitués tous les composants de notre univers. Cette liste des briques s'appelle le tableau périodique des éléments de Mendeleïev et j'ai en général l'habitude d'insister sur cela. Si vous regardez ce tableau, vous avez en face de vous toutes les briques qui constituent tout ce qu'il y a dans notre univers. Rendez-vous compte de ce que ça veut dire. Ce n'est pas mineur. Vous avez en face de vous les briques, et je réinsiste, qui constituent tout organisme vivant, tout comme matière inerte, tout ce qui constitue notre univers, notre matière visible. Les cosmologistes vous disent qu'il y a aussi la matière invisible. Donc c'est d'une part la composition, et ensuite il y a la transformation. La transformation est l'utilisation des procédés de la chimie et de la connaissance de la façon dont ces briques se connectent pour les recomposer et en faire une infinie diversité. Et quand je dis infinie, c'est tout à fait correct, dans ce sens que on peut recomposer ces briques de façon différente. Par exemple, à partir des... Je vais donner un exemple. Si vous achetez un camion de briques, avec ce camion de briques, vous pouvez construire pratiquement une infinité de maisons. C'est la même chose, sauf que les briques de la chimie, il y en a beaucoup plus qu'un seul type. Il y a tout un ensemble de briques qui toutes permettent cette recomposition, suivant certaines lois bien définies et qui donc donnent la possibilité de construire d'une certaine façon. C'est comme quand vous faites du Lego, les petites pointes qu'il y a, la façon de mettre les briques ensemble est contrôlée par la façon dont sont faites les connexions. Et ceci se passe en chimie. C'est exactement... C'est une analogie qui est valable. Les briques, c'est-à-dire les éléments, ont des propriétés de connectivité. Et ces propriétés de connectivité sont caractérisées par leur nombre et aussi par leur disposition dans l'espace, ce qui donne la possibilité de faire une infinité de constructions, mais qui sont déterminées par l'élément utilisé, par le nombre d'entre eux, mais le résultat est quand même une infinité. C'est comme aussi, un autre exemple, avec des couleurs, vous faites une infinité de tableaux.
Alors, il y a aussi la synthèse qui va avec.
Oui, justement, la synthèse, c'est ça, c'est de recomposer la matière, de prendre des substances de départ, de les modifier, de faire des réactions chimiques sur ces substances et donc d'en produire d'autres. Donc, Lavoisier avait bien raison. Rien ne se crée dans ce sens que les éléments sont donnés, sauf les éléments artificiels que créent les physiciens nucléaires et qui sont dans le tableau périodique, mais vers le bout. Et tout se transforme, oui, toutes ces choses-là peuvent se transformer.
Tout se transforme.
Et ça ne se perd pas dans ce sens que les éléments restent.
Tout se transforme, notamment où, dans le cadre où les molécules peuvent interagir les unes avec les autres. Et à ce moment-là, on parle de catalyse. C'est le fameux terme de catalyse.
Oui, si on veut. Disons que la molécule elle-même, c'est l'agencement d'atomes. Donc, je reprends l'image de la maison construite à partir de briques. La catalyse est une façon de faciliter la transformation. Non, la réaction chimique, c'est la transformation. La catalyse est une façon de faciliter cette transformation, de la rendre plus efficace, de la rendre plus rapide, mais de ne pas modifier la transformation elle-même. C'est une facilitation. J'allais dire, c'est juste une facilitation, c'est vrai, mais c'est absolument crucial dans ce sens que si la catalyse est bien faite et si une catalyse efficace est trouvée, on peut alors espérer être plus sélectif, c'est-à-dire avoir moins de produits secondaires et donc être plus efficace, plus sélectif, utiliser moins de matière, utiliser moins d'énergie. Et c'est pour cela que la catalyse, dans le futur, d'ailleurs déjà maintenant, mais en temps et plus dans le futur, jouera un rôle très important parce qu'elle permet de réaliser des transformations de façon plus douce.
Alors, venons-en à une branche de la chimie qui est votre spécialité, c'est la chimie supramoléculaire. Pouvez-vous nous dire en quelques mots en quoi consiste la chimie supramoléculaire ?
Oui, la base elle-même est relativement simple. Lorsqu'une molécule est constituée, comme je l'ai dit, à partir d'atomes qui sont agencés d'une certaine façon, cette molécule peut entrer en interaction, c'est-à-dire en quelque sorte toucher d'autres molécules par des forces qui ne sont pas les mêmes que celles qui lient les atomes entre eux au sein de la molécule. Donc, la molécule constituée interagit avec une autre molécule de façon spécifique. Cela veut dire que certaines interactions entre une molécule A et B sera meilleure qu'entre A et C. Ceci se traduit aussi par un terme qu'on appelle la reconnaissance moléculaire, qui est la propriété de base, disons la première qui caractérise la chimie supramoléculaire. Donc la chimie supramoléculaire est d'abord caractérisée par le fait qu'elle se trouve par-delà la molécule. Elle s'adresse à des assemblées de molécules et non pas à des molécules isolées. Je dis souvent aussi que c'est comme les individus et la société. En quelque sorte, la chimie supramoléculaire est une sorte de sociologie de la molécule. Des espèces, des assemblées, des populations de molécules. Ensuite, ces interactions étant spécifiques, cela veut dire que les molécules peuvent se reconnaître. Ceci a déjà été traduit par Emil Fischer il y a fort longtemps, mais dans un contexte différent, mais quand même un contexte proche, par l'image de la clé et de la serrure. Une molécule biologique, comme des enzymes, comme une enzyme, agit sur son substrat si le substrat s'ajuste à la molécule comme une clé dans une, à l'enzyme comme une clé dans une serrure. Et cette image, bon, bien que maintenant elle est évidemment un petit peu trop rigide dans son aspect, il n'empêche que c'est en gros quand même une image valable. Et comprendre la reconnaissance moléculaire a été le premier objectif de la chimie supramoléculaire. Pour en donner une idée, pour donner les applications, parce que c'est souvent la question que l'on pose, mettre au point un médicament, c'est essayer de mettre au point une clé chimique, synthétique, faite en laboratoire, pour une serrure biologique, et ceci de la façon la plus précise possible pour que la clé n'aille toucher que la cible que l'on veut toucher. Et toutes les interactions, tout ce qui se passe dans notre organisme, dans tous les organismes vivants, commence toujours par un processus de reconnaissance. Tout ce qui se passe chez nous est basé sur la reconnaissance. Il faut que les molécules se reconnaissent pour qu'une fonction puisse s'accomplir et que cette fonction ait un sens, c'est-à-dire qu'elle s'inscrive dans un déroulé.
En ce sens, on copie un peu la nature, puisque
déjà
dans la biochimie...
La chimie, c'est la nature. Qu'est-ce que c'est ? La nature, on parle souvent de la nature. Qu'est-ce que c'est la nature ? Nous faisons partie de la nature, la chimie, c'est la nature. Et si la nature... dite nature, elle n'a rien de spécial, la nature, sauf qu'on en fait partie.
Je voulais préciser que, par exemple, les globules blancs qui reconnaissent et détruisent les corps étrangers, c'est aussi de la chimie supramoléculaire.
On est bien sûr, c'est une étape, disons, je ne veux pas être impérialiste et dire que non, la chimie supramoléculaire est une étape nécessaire, évidente, de la chimie en tant que telle. Simplement, il y a de la chimie de l'atome, ensuite la chimie de la molécule, qui est faite d'atomes, ensuite, la chimie des espèces supramoléculaires qui sont faites à partir de molécules. Et puis, il y a une complexité de plus en plus grande, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un passage progressif vers ce qu'on peut appeler la matière complexe, dont nous sommes, en tant qu'organismes vivants et pensants, une représentation, celle la plus compliquée que nous connaissions actuellement. Ça n'exclut pas qu'il y en a peut-être des plus complexes sur d'autres planètes quelque part.
Alors faisons un peu d'anticipation. Les constructions supramoléculaires sont aussi à même de générer des signaux non chimiques. Alors est-ce que prochainement on pourra réaliser une informatique moléculaire ?
Ah non, attention, il ne faut pas de signaux non chimiques. Toute l'information est portée par la molécule. Donc en quelque sorte, l'information est inscrite dans la forme, le type d'atome, leur disposition, et elle est lue par leurs interactions. Alors, si je peux prendre un exemple que j'utilise en général pour illustrer ceci, notre génome, et le génome de tous les organismes vivants, est écrit avec 4 lettres qui sont des groupements moléculaires chimiques, adénine, guanine, thymine, cytosine. Et donc l'écriture utilise ces 4 lettres en une très très longue série qui est le programme génomique. La lecture se fait par des interactions entre ces lettres qui sont justement cette façon dont ces lettres se touchent. Et cette lecture est très simple, elle est binaire. L'adénine fait 2 points d'interaction avec la thymine, la guanine fait 3 points d'interaction avec la cytosine. Donc la lecture d'une séquence comprenant adénine, guanine, thymine, cytosine, cette lecture, ce stockage est moléculaire, puisque ce sont les groupes moléculaires qui stockent dans la molécule d'ADN, et la lecture correspondante est binaire, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 points d'attache ou 3 points d'attache. Et ça, si, est bien sûr, alors, supramoléculaire. Donc, il y a stockage moléculaire, lecture et traitement supramoléculaire.
Dans cette dimension binaire, est-ce qu'on peut parler d'une informatique moléculaire comme
Oui, oui, bien sûr, c'est une informatique. Hein, c'est une informatique, et même ça va beaucoup plus loin. C'est qu'une fois que l'on comprend, et quand on essaie d'analyser comment se développe une structure complexe, le développement d'architecture complexe se fait sur la base de l'information moléculaire qui est présente et qui, et ça c'est actuellement le thème qui nous intéresse le plus, mais on est évidemment très loin de comprendre et de contrôler le fin fond des processus en question, c'est ce qu'on appelle l'auto-organisation. C'est-à-dire que les objets matériels peuvent s'organiser spontanément, mais de façon contrôlée, de façon dirigée, sur la base des phénomènes de reconnaissance moléculaire. Les briques contiennent l'information, leur interaction est un traitement, une lecture de cette information qui se déroule et qui ensuite donne une espèce de complexité plus grande que les éléments de départ. Et cette auto-organisation est en fait, pour moi, le processus le plus fondamental pour nous tous, puisque si nous existons, c'est que notre univers a la propriété de s'auto-organiser. Et c'est parce qu'il a la propriété de s'auto-organiser que nous existons.
Alors, dans l'un de vos écrits, vous citez Léonard de Vinci. « Là où la nature cesse de produire ses propres espèces, l'homme commence, en utilisant les choses naturelles et avec l'aide de cette même nature, à créer une infinité d'espèces. »
Oui, c'est une phrase magnifique. Ça définit la chimie avant l'heure, en quelque sorte. L'homme, en utilisant les choses naturelles, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les briques, les éléments. Le tableau périodique de Mendeleïev, en suivant les lois de la nature, ben, ce sont les lois de la physique, ce sont les lois qui régissent l'interaction entre ces éléments et entre les compositions de ces éléments, les architectures. Et alors, évidemment, Léonard de Vinci, étant un scientifique et un artiste, a donné pour lui et pour quelqu'un comme lui, la chute de cette phrase a une signification très puissante, toute particulière, a créé une infinité d'espèces. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que, en quelque sorte, si je peux étendre un petit peu le point de vue, la science nous donne la possibilité de pénétrer la façon dont la matière s'agence. Ce contrôle, cette connaissance, permet ensuite de plus en plus de contrôle sur la façon dont cela se fait, nous permet d'une part de comprendre comment la matière s'est organisée et peut s'auto-organiser, et ensuite en faire usage pour créer des objets qui s'auto-organisent et qui sont différents de ceux qui existent déjà. Ils sont de toute façon tous contenus dans la nature, puisque nous sommes tous dans la nature. L'univers, si on considère que la nature, c'est l'univers, on en fait tous partie, on baigne dedans, on n'est pas autre chose. Mais, et ça c'est un point très important, ça rappelle le roman de Vercors, Les animaux dénaturés, où il définissait l'homme comme un animal dénaturé. Cela veut dire quoi ? C'est un animal qui est dans la nature, mais qui a réussi à s'en sortir par un processus évolutif qui est très intéressant en soi, et qui, ce faisant, a une certaine distanciation et regarde la nature de l'extérieur. Donc, tout en étant dedans, il y a une possibilité de se mettre un peu en retrait et de voir, de regarder la nature dont on est sorti, ce qu'on est soi-même, et peut-être se projeter dans l'avenir.
Alors Jean-Marie Lay, nous arrivons au terme de notre émission. Une dernière question qui porte quand même sur le titre de votre conférence, hein, qui peut paraître un peu curieux, de la matière à la vie, chimie, point d'interrogation, chimie, point d'exclamation. Pourquoi cette répétition, ce point d'interrogation,
cette exclamation ? Mais d'abord, en général, je présente le début du titre, de la matière à la vie. Alors tout le monde est très intéressé, évidemment. Alors on met chimie, là les gens commencent à hausser la tête, à se dire chimie, pollution, ça pue, etc., etc. Point d'interrogation. Alors, oui, bien sûr, il faut mettre un point d'interrogation, parce que qu'est-ce que ça va y voir, la chimie ? Ensuite, chimie, point d'exclamation, évidemment, de la matière à la vie, la chimie, parce que la vie est un processus qui est fondé, basé sur des molécules. Aucun organisme qui existe peut se passer des molécules. Ce sont des assemblages extrêmement complexes de molécules, mais ce sont des assemblages de molécules. Et donc, il est bien évident, point d'exclamation, que la chimie est ultimement à la base de l'explication de ce qu'est la vie. Mais la vie n'est qu'une étape. L'étape d'après, c'est la pensée, nettement plus complexe. Et je dis que dans un sens, pour moi, le passage du monde non-vivant au monde vivant est quelque chose de chimiquement qu'on ne comprend pas encore. On ne sait pas encore comment ça s'est fait, mais nettement plus accessible, qui sera plus accessible que le passage ensuite de l'organisme vivant à l'organisme pensant. Et surtout, l'organisme qui peut réfléchir sur soi-même, sortir. Comment l'univers a-t-il pu générer quelque chose, une entité qui réfléchit sur sa propre origine ? C'est pour moi la grande question. c'est une question qui résulte de la complexification de la matière, c'est ma conviction. On en est fort loin de la compréhension, mais c'est là que se situera, c'est la frontière ultime, je dirais. Bon, je prends aussi un autre exemple, la relativité générale, fantastique, la théorie quantique, grandes avancées de la science. Mais quel est le problème plus fondamental, non pas plus important, mais plus fondamental? Comment est-ce que Einstein a pu exister? Comment est-ce que Planck a pu exister? Parce que l'univers a généré un Einstein, a généré un Planck. Alors essayons de comprendre comment ces organismes, appelés Einstein, appelés Planck, ont pu exister pour ensuite générer les théories, les explications sur l'environnement, sur l'ensemble dont ils sont issus.
Le propre questionnement sur l'origine de la vie.
La vie, oui, l'évolution de l'univers, la complexification de la matière, d'où nous venons, pourquoi nous sommes ce que nous sommes, comment est-il possible de générer un organisme qui réfléchit, qui peut réfléchir sur sa propre origine. Bon, c'est des perspectives qui, je pense, tiendront les scientifiques en attention et leur procureront du travail pour de longues, longues années.
Eh bien, je vous remercie, Jean-Marie Laine. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'Université de Strasbourg, membre de l'Académie des sciences, professeur honoraire au Collège de France et puis, accessoirement, au prix Nobel 1987 de chimie avec Donald Cram et Charles Pedersen. Merci, Jean-Marie Laine, et puis j'espère
merci
à bientôt
à vous,
pour de prochaines émissions. Au revoir.
Avec plaisir.